Je le disais tout à l'heure, nous voilà donc arrivés à notre quatrième message sur la prière. Cela voudrait-il dire que c'est quelque chose d'important pour Dieu et pour nous? Elle constitue en tout cas l'une des valeurs de notre Église et je pense dans l'absolu l'une des valeurs de l'Église depuis que l'Église existe. Rappelez-vous, c'est notre petite maxime concernant la vision que nous avons de la prière. Le Wi-Fi est disponible 24 heures sur 24, sans interruption. Et il est gratuit, le Wi-Fi. Il nous reste néanmoins à aborder la difficile et sensible question du pourquoi, parfois Dieu ne répond-il pas, ou semble-t-il ne pas répondre, ou toujours répondre à nos prières. Tous ces moments où nous prions et où le ciel nous semble désespérément vide. Comment est-ce possible, alors que nous avons vu Bible en main, que la prière est avant toute autre chose demande, requête adressée à Dieu, et que Jésus lui-même nous encourage à demander, à prier? Alors, je ne vais pas vous mentir, à ma connaissance, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Ce serait trop beau. D'abord, parce que quand on parle de Dieu, on quitte en quelque sorte notre monde pour entrer dans le sien. En d'autres termes, nous sommes des hommes et Dieu est Dieu. Alors, je sais que ça peut paraître simpliste comme approche et pourtant il y a ça une simple et pourtant profonde vérité. Lorsque Paul écrit en Romains 9, 20, « Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour contredire Dieu, le vase d'argile, demande-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ?» Ainsi, donc, quand l'apôtre exprime cette vérité fondamentale, nous n'avons pas à discuter avec Dieu, car il est Dieu et nous ne sommes que des vases de terre, ça semble induire en fait que, sur certains sujets en tout cas, il ne faut surtout pas prier, demander ou questionner Dieu, ou le remettre en question. Ça rejoint un petit peu, en quelque sorte, ce que Luther disait en introduction. Arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Mais pourtant, quand on prie, c'est un peu ce qu'on espère faire. On espère de lui qu'il va changer quelque chose à nos circonstances, à notre situation, à ce que nous vivons. Le même Paul, et ça va peut-être paraître contradictoire dans un premier temps, va écrire à un autre moment de sa vie à ses frères-là en Grèce, « Priez sans cesse ». Exprimez votre reconnaissance dans toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alors c'est vrai qu'ici, Paul fait plutôt référence à une reconnaissance spontanée et permanente que nous devrions indépendamment de nos circonstances adresser à Dieu, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il a donné son Fils sur la croix. Il y a malgré tout, entre le premier texte qu'on a vu et celui-là, entre « je peux tout demander à Dieu » et à certains moments, il faut peut-être que je lui lâche un peu les baskets, il semble y avoir une sorte de tension. J'ai envie de vous dire, dès maintenant, les tensions, il va falloir apprendre à faire avec. Cette tension, je l'ai vécue à titre personnel de cette manière-ci. C'est des questions, hein. Oui, je me pose des questions. Peut-on faire changer Dieu d'avis? Première question. S'il est Dieu, à quoi ça sert-il de prier? Puisqu'étant Dieu, il sait mieux que quiconque ce qu'il a lieu de faire. D'accord? Le simple fait de dire que l'on peut faire changer Dieu d'avis n'est-il pas blasphématoire et même illusoire? Blasphématoire, car cela ne reviendrait-il pas à dire que si je fais changer Dieu d'avis, c'est qu'il reconnaît tacitement que sur un point au moins, ce pourquoi j'ai prié, j'avais raison et lui avait tort. Et illusoire, car s'il ne peut pas changer d'avis, il est donc inutile de prier. Vous êtes content d'être venu, hein? Vous voulez mon cerveau à prêter? Ma femme, qui m'aime profondément, vous dira sans doute que je me pose beaucoup trop de questions, c'est possible. Hein. Mais le fait reste. Que fait-on avec cette tension? Ou bien, et c'est une manière de résoudre cette tension, y a-t-il des choses pour lesquelles nous pouvons prier et d'autres pas? On va faire la liste, hein, si c'est le cas. Vous vous rappelez peut-être que j'ai dit à plusieurs reprises déjà que pour être exaucé, il fallait prier dans le nom de Jésus. Vous vous rappelez de ça? Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. On va prendre ce texte, comme ça vous savez bien que c'est lui qui le dit, pas moi. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Hein? Prier dans le nom de Jésus, c'est avoir les mêmes pensées que lui, je précise quand même pour qu'on ne se trompe pas, c'est avoir les mêmes priorités que lui, les mêmes objectifs que lui, oserais-je dire, c'est avoir le même cœur que lui. Ce n'est donc pas simplement finir nos prières par « au nom de Jésus ». Parce que ça, ce n'est pas très compliqué. Puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, depuis le temps que j'évolue dans les églises, ça fait un peu quand même magique. Hein. Il faut absolument mettre le nom de Jésus en dessous de la prière, parce qu'autrement, il ne va même pas écouter. Mais si je le mets, alors là, c'est jackpot. Hein. Là, il va me répondre, parce que j'ai prié au nom de Jésus, j'ai mis Jésus en fin de lettre. La première chose dont il faut prendre conscience, c'est que, tout ceci étant dit bien sûr, ça ne sert à rien de prier pour ce quoi nous devrions prier. Très vite, on apprend ce que Dieu aime, ses priorités à lui, mais ses priorités à lui sont rarement nos priorités à nous. Alors c'est rien, ça ne sert à rien d'arriver devant Dieu en disant « Oh Seigneur, Dieu de l'univers, mon Seigneur et Maître, prie, je prie pour que la terre entière soit remplie de ta gloire. » Alors que notre vraie préoccupation, c'est comment est-ce que je vais finir mon mois, quoi. Ça ne sert à rien. Jésus, on ne connaît pas trop, à part certains moments dans l'évangile, on ne connaît pas trop le thème ou le contenu de sa prière. Mais je pense que Jésus priait pour beaucoup de choses de nature différente. Mais ce que je voulais dire en disant ce petit truc, et c'est lui qui l'a dit bien mieux que moi, c'est que quand nous prions, nous devons étaler devant Dieu ce qui se trouve dans nos cœurs, pas ce qui devrait s'y trouver. Je vais le dire autrement, il faut apprendre, au départ, hein, à prier pour ce qui nous préoccupe vraiment. Pas ce qu'on pense qui préoccupe Dieu, non, non. Ce qui nous préoccupe vraiment, nous. Donc à la question « Y a-t-il des choses pour lesquelles nous devrions prier et d'autres pas ?» je pense honnêtement que la réponse est « Nous pouvons prier pour tout. » Je n'ai pas rajouté n'importe quoi, hein. J'ai dit pour tout. Mais en conservant à l'esprit que notre vie de prière est supposée être évolutive. S'il faut prier pour ce qui nous préoccupe vraiment, il faut néanmoins que notre prière se fasse plus ample, plus large, si vous préférez, au fur et à mesure que notre prière se rapproche de Dieu. Rencontre le cœur de Dieu pour qu'on sorte des petites préoccupations personnelles qui sont nécessaires, hein, qui existent, pour aller s'en aller voir un petit peu vers quelque chose de plus haut, de plus impliquant, de plus en rapport avec la pensée de Dieu et le cœur de Dieu. Mais c'est un chemin. Donc au départ, soyez honnête avec Dieu, ça ne sert à rien de faire semblant d'être spirituel. Si tout ce qui vous préoccupe, c'est encore une fois votre journée au travail, je suis fatigué, mon chef a été impossible, et voilà. À la fin, vous devez arriver à dire « Bénis ce chef en dessous de tout, Seigneur, que je déteste profondément. » Voilà. Donc notre prière doit de plus en plus, avec le temps, être en adéquation avec celle de Jésus et de moins en moins recroquevillée sur elle-même, c'est-à-dire sur nos demandes petitement égoïstes. Alors, je pourrais vous énumérer toute une série de raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas aux prières, parce qu'il y en a plein dans la Bible, hein, comme le manque de foi, etc. Mais je me suis dit qu'il valait peut-être mieux que je tente, grâce à de nombreuses lectures de la Bible et de nombreux ouvrages écrits sur le sujet, de brosser un décor à la problématique de la prière. Qu'est-ce qui se cache derrière ce pourquoi Dieu ne répond-il pas toujours à ce que nous demandons? La première chose à rappeler, c'est pour moi et pour vous la plus importante, c'est que Dieu entend toutes nos prières, quelles qu'elles soient, le pauvre. Mais parfois, on n'obtient pas ce qu'on a demandé. Nos demandes ne nous rapportent pas toujours ce que nous avions à l'idée quand nous la formulons. On demande un château fort à Saint-Nicolas et on reçoit un livre sur la faune aquatique. C'est du vécu. J'ai été traumatisé pendant plusieurs années quand j'étais petit à cause de ça, mais... ou quand les maris offrent une foreuse pour la fête des mères, par exemple. C'est du vécu aussi. Pas moi, hein, mais c'est un grand classique. Ou une machine à laver. Ouais, ça, c'est des trucs très tôt, voilà. Vous comprenez? Voilà. C'est d'ailleurs aussi le cas dans les rapports humains, je l'ai dit. Rapports dans lesquels nous n'avons pas toujours ce que nous demandons. Messieurs, vous qui êtes mariés comme moi, on peut toujours rêver, hein. Car ces rapports humains, nous l'avons vu, sont aussi basés pour l'essentiel, même si on ne s'en rend pas toujours compte, hein, sur la notion de demande et de réponse à la demande. Fais-moi des frites, non, je n'ai pas envie, enfin, etc. La vie tout entière n'est que demande et réponse. Et quelque part, il faut apprendre à comprendre que c'est très bien comme ça. Mais il faut aussi apprendre à accepter que l'on n'obtient pas toujours ce que l'on veut. C'est une partie du deal. De plus, à travers l'exaucement et le non-exaucement, on apprend, on grandit dans la connaissance de Dieu et c'est important, de nous-mêmes. C'est C.S. Lewis que je citais tout à l'heure, il a écrit énormément de livres. Alors, il y a un livre que je vous recommande toujours, qui était un grand classique de la littérature chrétienne, qui était écrit dans le courant des années 40, qui s'appelle en anglais « The Screwtape's Letter » et qui s'appelle en français « Tactique du diable ». C'est beaucoup moins drôle. Et en fait, c'est très comique parce qu'il met en scène, Lewis dans ce livre, très spirituel, très profond, il met en scène en fait un vétéran de démons, un vétéran de la tentation, et son neveu qui est novice, qui est un démon débutant, et c'est leur correspondance. Oui, ils sont responsables d'un certain nombre de personnes, chacun de leur côté, à tenter, à garder dans un état d'idiotie le plus profond possible. Et le gamin, puisqu'il est plus jeune, il demande des conseils à son oncle. Et dans ce cadre-là, voilà ce qu'écrit Screwtape donc, à son neveu Wormwood. Ça veut dire estragon, Wormwood. C'est le nom du démon. Voilà ce qu'il dit. Chaque fois que quelqu'un prie, il y a le danger d'une intervention immédiate de l'ennemi. Bon, l'ennemi étant ici Dieu, bien entendu. Il affecte, non Dieu, il affecte une indifférence cynique pour la dignité de sa position, qui est pur esprit, et de la nôtre, eux aussi étant esprit. En tant que pur esprit, et dès que ces animaux humains se mettent à genoux, il leur prodigue de façon éhontée la connaissance d'eux-mêmes. Quand on prie, mes amis, quand on développe une vie de prière, Dieu nous révèle à nous-mêmes. Il éclaire le jeu. Il nous sort de notre abrutissement par rapport à nos défauts, à notre fonctionnement, à ce que nous sommes vraiment. Rien que pour ça, ça vaut peut-être la peine de prier. Notre véritable caractère se révèle dans la prière. Notre côté revendicateur ou paisible dans l'attente de ce qu'on a demandé. J'ai prié le lundi pour un truc, le revendicateur, le mardi matin, il va se demander. Et Seigneur, ça fait 24 heures que je t'ai demandé, je t'ai prié pour ce truc. Je vais encore devoir prier combien de temps pour que tu me répondes. Et puis, il y a d'autres qui deviennent plus paisibles. Tu feras comme tu veux, mais voilà, rappelle-toi que j'ai demandé ça, et tu sais pour quelle raison, etc. Il y a un révélateur de ce que nous sommes à travers la prière. La prière va nous révéler progressivement notre égoïsme ou notre dépendance de Dieu. Beaucoup arrêtent d'ailleurs de prier car ils ne prennent pas conscience de la pédagogie de la prière, ce que Dieu veut faire à travers la prière. Ils n'apprennent pas, ils ne reconnaissent pas qui ils sont vraiment. Ils ne demandent que pour recevoir ce qu'ils pensent être leur dû, pas pour s'approcher de Dieu. Alors je disais que même les rapports humains sont basés sur les demandes et les réponses. Imaginez un couple, par exemple, qui ne fonctionnerait que dans le côté cynique de ce rapport aux demandes et aux réponses. Ce serait abominable. Quand vous comprenez que vous n'êtes là que pour servir l'autre, que pour répondre à ses demandes, à ses besoins, qu'il est en train tout le temps de solliciter des trucs et que vous êtes là en train de donner, que c'est jamais assez. Vous comprenez? Tous les matins, il a une autre strip ou elle a une autre strip. Elle invente un autre truc. Alors quand on prend un peu de hauteur, c'est pas toujours facile, je sais bien, c'est en fait un grand avantage de la prière de ne pas être un mécanisme fonctionnant sur le mode sans échec. Je demande, Dieu répond. Voilà. Je demande un truc, une nouvelle bagnole, la voiture est là le lendemain matin devant la porte. Dieu, dans son infinie sagesse, conserve à l'esprit une vérité qui nous arrive à nous de perdre totalement de vue. Et cette réalité est que nous sommes des êtres finis, limités. Ça signifie que nous sommes limités en connaissance, en pouvoir, en amour et en capacité de communication. Je rappelle la petite parenthèse que tirer la tronche, bouder, faire la gueule, ça n'est pas un moyen de communication. Même si on transmet un message, je ferme la parenthèse. Et pourtant, malgré tout ça, il faut bien agir, malgré notre côté limité. Eh bien justement, et Dieu dit, puisque tu es limité et moi pas, si tu veux agir dans ta vie, dans celle des autres, demande-moi, prie. C'est là qu'intervient la prière. Il faut prier pour agir. Mais nous devons toujours garder à l'esprit notre finitude, le fait que nous ne connaissons pas tout. Nous avons une connaissance insuffisante des choses et nos désirs ne sont pas assez parfaits pour que nous recevions tout ce que nous demandons. Si je vais résumer de manière un peu caricaturale, on peut franchement parfois demander des trucs qui vont nous détruire. Mais on ne sait pas. Mais Dieu sait, et il ne nous donnera pas. C'est sans doute ce à quoi Jacques fait allusion quand il écrit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » C'est aussi simple que ça. Dites-moi que c'est simple, je vous en supplie. La réponse aux prières ne sont pas toujours garanties. Ce n'est pas que la prière soit un mode de causalité, donc une façon de provoquer des événements plus faibles. Non, au contraire, c'est un mode plus fort. Il n'y a rien de plus puissant que la prière. Et ça, on ne comprend pas, je pense. Quand il y a réponse, la réponse, elle est plus forte. Elle implique une dimension, je vais être très fort, hein, une dimension cosmique. Car quand il se trouve qu'elle marche, la prière, elle marche sans limite d'espace et de temps, parce que la réponse vient d'un endroit où il n'y a pas d'espace et de temps. Et ça va vous impliquer, vous, votre entourage, l'univers peut-être tout entier, vous n'en savez strictement rien. Donc, ce n'est pas n'importe quoi une réponse à une prière. C'est pour cette raison que Dieu s'est gardé le pouvoir discrétionnaire de l'accorder ou de la refuser. Je réponds à ta demande ou je n'y réponds pas, ou pas comme tu l'attends. Ça peut paraître frustrant, je pense que ça l'est en fait dans notre expérience humaine, mais s'il n'en était pas ainsi, sans cette condition, je ne vais pas répondre à tout ce que tu demandes, mes amis, je vais être tout à fait clair, hein. Nous serions purement et simplement détruits. Je vais alléger un peu la pression là. Est-ce que vous avez quelqu'un a vu ce film Bruce Tout-Puissant, Jim Carrey, vous connaissez? Le pitch est simple. Hein. Bruce, personnage principal, il prie, mais enfin il prie, pas plus que ça, mais enfin il prie. En fait, chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas dans sa vie, il en veut à Dieu, quoi. Et à un moment, Dieu l'en a jusque là. C'est Morgan Freeman, hein, si vous vous situez, qui joue Dieu. Un jour, Dieu le convoque, mais il ne sait pas qu'il va voir Dieu. Hein, et Dieu dit, bon, puisque tu sais tout mieux que moi, que je suis responsable de tout ce qui ne va pas dans ta vie, je vais prendre 2 semaines de vacances et je vais te donner tous mes pouvoirs. Alors là, au début, c'est très drôle. Hein, là, il m'en a un bol de soupe. Et puis, il repense au truc de Moïse, hein, la mer rouge, je vais comme ça, et son bol de soupe s'ouvre. Donc, il a tous les pouvoirs de Dieu. C'est le pied. Hein. Il veut une Ferrari, il pense Ferrari, une Ferrari, quoi. Tous les pouvoirs de Dieu. Sans le seul problème, et on va toucher à ce que nous sommes en train de parler, la prière, c'est qu'à un moment, il entend des millions de voix dans sa tête. C'est tous les gens qui prient. Alors il a un ordinateur, et pour être quitte, il fait oui, 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 oui. Il envoie des millions de oui à tout le monde. Entre autres, des gens qui, par exemple, veulent tous gagner au loto. Donc il y a des milliers de gagnants. Donc c'est l'émeute. Il y a des émeutes dans les rues de la ville. Parce que les gens veulent toucher le premier prix, mais ils sont des millions à l'avoir gagné, puisqu'il a répondu oui à tout. Puis il veut passer une soirée romantique avec sa femme, donc pour en jeter un plein la vue, il rapproche la Lune de plusieurs milliers de kilomètres. Ça provoque des tsunamis, des ouragans, c'est une catastrophe. Vraiment. Ce qui est très intéressant à la fin du film, c'est que notre Dieu, par procuration, ne veut plus qu'une chose, redevenir un simple homme. Et plus un homme tout-puissant parce qu'il n'a tout simplement pas ce qu'il faut pour ça. Et qu'il est en train de détruire sa vie, son couple, sa famille, alors que tous ses désirs sont exaucés et ceux des autres aussi. Il a tout ce qu'il veut, mais il est en train de détruire sa vie. Mes amis, aucun d'entre nous n'a ce qu'il faut pour être Dieu. Et Dieu ne va certainement pas nous aider à devenir ce que nous ne devons surtout pas être. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne maîtrisons pas tous les tenants et les aboutissants. Alors, ce film, vous l'aurez compris, bien entendu, ça finit bien, hein, est une comédie, hein, ça vous aurez compris. Mais quand même, Vous allez me dire, ma femme dira encore, il n'y a que toi dans ce genre d'ânerie qui voit autre chose qu'un film comique, quoi. Ce film dit entre autres, les tenants et les aboutissants de notre univers sont de dimension cosmique et il faut Dieu et rien de moins pour les gérer. Je vous rappelle quand même que la gadoue dans laquelle nous sommes, pêcheurs, inconsistants, ayant besoin d'un sauveur, tout ça vient du fait qu'à un moment, il y a très longtemps, l'homme a commandé à Dieu, « Moi, je pense que je peux jouer à Dieu aussi bien que toi. Moi, je pense que je ne peux me passer de toi. » On a vu les résultats, on le voit encore aujourd'hui. C.S. Lewis, encore lui, donne une bonne image de la vie de prière, on va être pratique, hein, et de sa dualité, des deux côtés de la vie de prière. Parce qu'il y en a deux, en fait. Hein. Il y a le nôtre, si, et celui de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est C.S. Lewis, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas sa tête. Il dit, il n'est pas déraisonnable pour un maître d'école de dire telle et telle chose, vous pouvez les faire selon le règlement établi dans cette école. Vous pouvez. Mais telle et telle autre chose sont trop dangereuses pour être abandonnées à des règles générales. Si vous voulez le faire, vous devez venir soumettre votre demande et discuter de toute l'affaire avec moi dans mon bureau. Et alors, on verra. Je ne promets rien, on verra. Alors l'école, dans cette illustration, c'est ce que Dieu nous appelle à faire dans notre environnement. C'est le côté réponse humaine à la prière. La visite dans le bureau du maître d'école, c'est une dérogation au cours normal des choses. On va changer quelque chose au cours normal de l'existence. Ça, c'est la prière. Et la réponse à celle-ci est laissée à la discrétion de celui qui sait, qui maîtrise. D'accord ? Tout ceci signifie que nous vivons, nous les hommes, sur deux modes de cause à effet. L'un est entièrement sous notre contrôle. Oui, il y a des trucs qu'on contrôle. Hein. L'autre qui fonctionne via la prière ne l'est pas. On ne contrôle pas. C'est Dieu qui contrôle. Alors si ce n'est pas déjà fait, vous allez comprendre. Si vous avez des mauvaises herbes dans votre jardin, il faut déjà un jardin pour ça. Moi j'ai une terrasse, mais j'ai des mauvaises herbes. Dans des pots, mais j'ai des mauvaises herbes. Donc si vous avez des mauvaises herbes dans votre jardin ou un pneu crevé, il vaudrait mieux que vous ne vous contentiez pas de prier pour que les mauvaises herbes disparaissent ou pour que votre pneu soit réparé. Ne priez, ça ne sert à rien. Enfin si, vous pouvez prier. Et Dieu va vous dire, tu as deux mains. Yves, tu as deux mains, oui. Mauvaises herbes, ma main, mimine, retirée, arrachée, you, c'est ton boulot, bon mieux. Ne crever, idem. Alors, pourrait toujours, et ça je me retrouve, pourrait toujours demander à quelqu'un d'autre d'enlever les mauvaises herbes et de réparer les pneus. Et moi je trouve ça important de permettre aux autres d'exprimer leur talent, n'est-ce pas? Vraiment. Vous voyez moi réparer un pneu? Allez, franchement, remplacer une roue. C'est une caméra qui tourne. Si on veut faire un remake d'un film comique, pourquoi pas, mais. Mais même dans les personnes à qui vous allez demander, tu sais pas venir acheter mes mauvaises herbes, changer mon pneu, il peut encore vous dire oui ou non. Mais il vaudrait quand même mieux que vous appreniez à le faire vous-même, parce que ça, c'est le mandat que Dieu vous donne dans votre environnement rédemptif, humain. C'est votre partie du travail. Alors, ce mandat, notre mandat, va bien entendu bien au-delà du simple arrachage de mauvaises herbes ou du changement d'une roue. Mais ça, vous aurez compris, pour faire simple, il va même jusqu'à aimer son prochain comme soi-même. Ça n'est pas rien, mais ça fait partie de notre boulot à nous. D'accord ? J'ai souvent dit ça, ben si tu pries parce que ta voisine ne va pas bien, qu'elle a un problème, qu'elle n'en sort pas, il faut prier pour elle. Mais Dieu va souvent vous dire, mais c'est bien, donc moi je m'occupe un peu, je vais m'en occuper, mais ce serait bien que tu ailles sonner, que tu ailles passer du temps avec elle. C'est souvent la réponse de Dieu à nos propres prières. Il faut faire attention avec ça. Par contre, et ça on va rentrer dans le domaine de Dieu, et de la prière, indispensable. Si vous avez un ami accro à l'héroïne, ou qui est en train de sombrer dans la délinquance, par exemple, ou encore qui passe par des moments terriblement difficiles. Quoi que vous puissiez faire pour l'aider, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais quoi que vous puissiez faire, vous feriez mieux de prier pour lui. Pas seulement parce que le remettre d'aplomb est hors de votre portée, vous ne pouvez pas arranger ça, la situation, vous ne pouvez pas. Non seulement c'est hors de votre portée, et c'est pour ça qu'il faut prier, mais aussi parce qu'il est bon que ce soit hors de votre portée. C'est bien que ça ne soit pas de votre portée. Ça nous apprend la dépendance. Alors, pour ce qui était la dimanche passée, j'ai fait allusion à ce passage difficile de la vie de Pierre. Quand Jésus dit « on va m'arrêter, on va me tuer », et puis il a dit « mais non, Seigneur, je mourrai pour toi, si tu dois mourir, je mourrai », enfin voilà. Et Jésus dit « aïe, Pierre, on va prendre le texte. Hein. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Je crois que Jésus nous donne ici un bon aperçu de la manière dont les choses vont se passer pour nous, il faut s'y habituer, dans le cadre de notre vie humaine et de sa rédemption, de ce que Dieu est en train de faire dans ce monde, pour l'amener à son terme. Le message est clair. Parce que vous êtes des hommes, il est bien des situations où vous ne pourrez rien faire si ce n'est prier. C'est Jésus qui dit ça. J'ai prié, Pierre. Si je dis que l'attitude de Jésus est exemplative, c'est parce qu'il aurait pu faire en sorte que Pierre ne le renie pas. Lui aurait pu. C'est un peu Dieu sur les bords quand même. Il aurait pu faire en sorte qu'il ne commette pas cet acte ignoble. Il aurait pu lui intimer l'ordre divin de ne pas le trahir, en lui imposant les mains ou pas, suivant que Jésus était plutôt pentecôtiste ou pas. C'est encore en débat, on ne sait pas trop bien. Jésus, lui, aurait pu agir, il aurait pu faire quelque chose. Pourquoi s'il n'a pas fait? Pourquoi il s'est contenté de prier? Bien déjà parce que s'il avait fait quelque chose, cela n'aurait pas permis à Pierre de progresser et de devenir l'homme, la personnalité qu'il était appelé à devenir. De plus, en arrangeant les choses, pour Pierre, Jésus nous aura envoyé le message qu'un chemin en dehors de la soumission au Père était possible. Alors que l'exemple que donne Jésus dans tout l'Évangile, c'est « Je me soumets en toutes choses à mon Père ». Il fait un miracle, c'est par, vous rappelez, hein, par qui? C'est par mon Père. Ce que je fais, je l'ai fait faire par mon Père. Il renvoie toujours au Père. Tout ce que Jésus a fait, c'est de dire à Pierre, avec sans doute une profonde tristesse, mais aussi avec une infinie confiance dans sa prière adressée au Père, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. » Mes amis, Jésus étant notre exemple en tout, il devait nous laisser celui de la confiance et du renoncement à la prétention, à la toute-puissance. C'est ce modèle-là qu'il devait nous laisser. Nous ne sommes capables que d'arracher des mauvaises herbes dans notre jardin, pas d'arracher celles poussant dans le cœur de l'homme, même si cet homme est notre ami. C'est en dehors de nos capacités. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Dieu de le faire. L'important est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de l'autre, pas la nôtre. On a tous des projets pour les gens qu'on aime. Vrai? Parfois, moi j'ai envie de leur dire, arrêtez de m'aimer. Hein. S'il vous plaît. C'est vos projets, ça... Non, vraiment pas. Et cette volonté ne fait jamais, ça il faut bien comprendre, la volonté de Dieu ne fait jamais l'impasse sur les chemins de traverse que les hommes sont capables d'emprunter. Ça ne va pas aller tout droit. Non. Ça ne sera pas une ligne droite. Jamais. C'est juste ce qu'il a dit, hein. Il est sinueux, le chemin qui mène à la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand les hommes prennent des chemins de traverse, quand ils sortent de la route, Dieu les suit sur ce chemin. Il ne supprime pas le chemin. Car ce serait nier leur humanité, avec toutes les fragilités que ça suppose, mais qui font aussi d'eux des hommes ayant besoin de la miséricorde de Dieu et de nos prières. Cette scène est peut-être la plus emblématique dans toute l'Écriture et celle qui illustre avec le plus de force la communauté de l'amour priant. Je pense vraiment que c'est la scène la plus forte dans le domaine. Il y a dans la prière de Jésus pour son ami toute la force de son amour pour lui et tout le désir de le voir triompher de l'épreuve qu'il attend. Vraiment. Il a certainement dit au Père, « Je t'en supplie, fais en sorte que Pierre ne me renie pas. Et s'il le fait, fais en sorte qu'il revienne, que sa foi tienne. » qu'elle ne soit pas détruite. Ce serait vraiment trop grave et trop triste. Tout l'amour de, je suis certain que tout l'amour de Jésus pour Pierre était dans sa prière. Mais Jésus le laisse libre de réussir ou d'échouer devant Dieu et devant les hommes et au-delà, devant l'histoire avec un grand H, parce que tout le monde sait que Pierre s'est rétamé la tronche. Hein. C'est encore vrai aujourd'hui, quand vous cassez la gueule, ça va. Moi, quand je me suis cassé la gueule, bon, j'ai reçu un coup de fil, le seul, c'était pas gentil, pour me dire, sais-tu que tu as un traumatisme pour le protestantisme belge? Sais-tu que même aux États-Unis, tout le monde est au courant? Aux États-Unis, taratin, Las Vegas. Voilà. Mais Pierre, c'est vrai que personne n'y connaît rien à l'évangile aujourd'hui. Mais ah, Pierre, le mec qui a renié Jésus, là, avec cette histoire de coq qui chante le matin, tout le monde sait. C'est terrible. Hein. Et dans toutes les réunions, quand Pierre enseignait, oui, il faut faire confiance. Hé, pauvre type, toi, t'as renié Jésus trois fois. Vous voyez ? Jésus a laissé son disciple libre de se casser la figure. Parce qu'autrement, la seule autre possibilité, c'était quoi ? Arranger Pierre. Magique. Moi, j'essaye parfois ça la nuit en pensant à vous, je fais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec moi non plus. Hein. Jésus, et c'est symptomatique, hein, n'a recouru ni à la condamnation. Il n'a pas dit à Pierre, moi je sais que tu vas te planter la tronche, tu es vraiment un pauvre type, tu te rends compte ce que j'ai fait pour toi. Non. Ni à la honte. Pierre, franchement. Ni à la sagesse. Pierre, nous devons parler. Viens en retraite de trois jours avec moi. Pas fait tout ça, Jésus. Il aurait pu. Tout ce qu'il a fait, c'est prier. Il n'a pas utilisé de pouvoir surnaturel pour reformater l'âme ou le cerveau de son ami. Il n'a pas fait ça. Juste un simple, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. C'est le magnifique modèle que Jésus nous a laissé afin que nous le mettions en pratique dans nos relations avec ceux qui sont proches de nous et même éloignés de nous. Alors, il y aurait bien des choses à dire sur la prière, mais l'important au moment où je parle, c'est de prendre un moment la décision de prier. Parce qu'au bout du bout, la prière est par-dessus tout un moyen dont Dieu se sert, pour former profondément notre personnalité. Car comme nous venons de le voir, elle associe la liberté et la puissance avec le service et l'amour. Mes amis, et ça arrive souvent dans les églises, hein, parce que ça fait bien sans doute, hein, mais dire à quelqu'un que l'on va prier pour lui, si on le pense vraiment et si on va le faire, hein, ce n'est pas l'aimer moins, c'est l'aimer plus. Il faut le faire. Hein. Se dire, je prie pour toi, si vous ne le faites pas, c'est un peu moche quand même. Hein. Donc prier pour quelqu'un, c'est l'aimer plus, hein, pas moins. Prier n'est pas une invitation à ne rien faire, ou pas grand-chose, c'est au contraire souvent faire le maximum de ce qu'un être humain peut faire pour un autre être humain. Dans beaucoup de situations, c'est la seule chose que vous pourrez faire pour ceux que vous dites aimer. Moi, je suis certain que Pierre, après être venu, il se sera dit, « Quelle chance que Jésus a prié pour moi !» Être formé par Dieu au travers de la prière, c'est apprendre à quoi ? Ben, à apprendre à attendre que lui agisse, au lieu de foncer tête baissée et de prendre nous-mêmes les choses en main. De cette expérience naît une forme de caractère qui est excessivement précieuse pour Dieu. Car ce caractère peut recevoir justement le pouvoir d'agir comme Dieu le souhaite. L'attente qui nous forme à la persévérance, c'est encore Jacques qui dit ça, est importante et nécessaire, car elle naît du fait que nous demandons pour les autres. Mais demander pour les autres, ça implique souvent des changements en eux et des changements en nous. Il faut réfléchir à ça. Seigneur, je te prie pour que machin brawl n'avorte pas. Amen. Hein? Tu vas t'occuper du gosse avec ? Elle n'a quand même que 15 ans, quoi. Tu vas permettre qu'elle fasse ses études ? Tu vas assumer ? L'église qui dit que tu peux pas avorter, vous allez assumer avec ? Oui ? Non ? C'est bien de demander, hein ?
Ça va, hein, on fait le nécessaire.
Hey, je fais le nécessaire, elle avortera pas, mais vous allez assumer. Hein. Vous voyez ? Elle va changer et on devra changer. C'est un exemple qui me vient comme ça, mais voilà, c'est. Parce que tu peux pas, ça c'est pas très compliqué. Hein. Il arrive même que ces changements fassent intervenir, et si on ne s'en rend pas compte non plus, des conflits qui se passent dans une sphère spirituelle complètement extérieure à l'économie humaine. Je prends ce texte dans Daniel, livre du prophète Daniel. Mais là, Daniel, ça fait 3 jours qu'il prie, sans arrêt. Et il n'a pas de réponse. Et puis à un moment, il y a un ange qui débarque. Et voilà ce que dit cet ange. Pour expliquer son retard, pourquoi Dieu n'a pas répondu plus tôt, plus vite, parce que c'était grave. Mais l'ange qui protège le royaume des Perses, c'est un ange déchu. Hein. Mais l'ange qui protège le royaume des Perses s'est opposé à moi pendant 21 jours. Ensuite, Michaël, qui est l'ange protecteur d'Israël, pour ceux qui ne sauraient pas, l'un des principaux anges est venu m'aider. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. En fait. Il dit quoi, Daniel ? Si Dieu n'a pas répondu plus vite à ta prière en temps et en espace et en temps, c'est parce que pendant 3 jours, on a dû se battre pour pouvoir justement répondre à ta prière. Parce que s'il y a un monde spirituel, il se passe quelque chose dans ce monde spirituel. Je termine. Vraiment. Ce que nous retirons de notre vie, ce que Dieu en retire, c'est tout simplement la personne que nous devenons. Et il est dans l'intention de Dieu que nous progressions pour devenir le type de personne à qui il puisse accorder le pouvoir de faire ce que nous voulons faire. C'est dans la prière que nous devenons cet homme ou cette femme-là, nulle part ailleurs. Un homme qui peut affirmer, comme Jésus, « Père, je te remercie de ce que tu m'exauces. Je sais que tu m'exauces toujours. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.